Pour nous écouter dans le monde entier, c'est facile avec Internet. Vous tapez www.radiookapi.net. Radio Okapi, quand vous voulez, où vous voulez.
Eh bien, bon nombre de personnes vivant avec le VIH-Sida se disent victimes de la stigmatisation. Elles estiment qu'elles sont rejetées au sein de leur famille et même de la communauté, et cela arrive de temps à autre. Alors, conséquence, elles ont du mal à vivre avec leur maladie, elles préfèrent plutôt se replier sur elles-mêmes. Alors, que faut-il faire pour aider les VVV à sortir de leur isolement? Jean Loukela, coordonnateur du Réseau National des Organisations d'Assises Communautaires, nous en parle.
Bon, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et monsieur Jean Loukela, coordonnateur du Réseau National des Organisations Assises Communautaires des Personnes Vivant avec le VIH-Sida.
Ok.
Bon, vraiment, les problèmes nous concernent en tant que personnes vivant avec le VIH-Sida.
Mm-hmm.
Bon, ce problème ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2000, surtout 2002, quand les ARV sont arrivés, il a fallu que les gens se mettent sous ARV. Alors c'est à ce moment que ce problème a vraiment commencé.
Mais c'est quoi la stigmatisation?
Bon, la stigmatisation, c'est le dénuement, les dénigrements, et puis diminuer la personne pour la marginaliser. Et c'est ça qu'on appelle la stigmatisation. Donc il y a la stigmatisation et l'auto-stigmatisation. Et puis la stigmatisation, comme vous venez de dire, c'est elle qui freine même l'accès au traitement, c'est elle qui envoie les gens dans la clandestinité. Parce que dès qu'une personne est stigmatisée, et puis ça freine même le dépistage volontaire.
Mmh.
Parce que personne ne viendra se dépister si c'est que dès que je serai dépisté, on va me stigmatiser.
Alors pouvez-vous donner des exemples de la vie de tous les jours, de la stigmatisation?
Oui, de la vie de tous les jours. Moi, j'en vis presque chaque jour. Pour un exemple concret.
Aujourd'hui. Parlez-nous de votre témoignage, par exemple.
Mais de mon témoignage. Moi, par exemple, je n'ai pas été stigmatisé.
Mmh.
Pourquoi? Parce que j'ai été accepté par ma famille, j'ai été accepté par mes enfants. D'ailleurs, ma première fille est une religieuse ici à Kinshasa.
Mmh.
J'étais accepté parce que je leur ai dit la vérité. Je leur ai dit qu'écoute, voici ce que je suis. Et tout le monde m'a compris, et même la société aujourd'hui me comprend, parce que je passe à la radio, je passe à la télé, je parle, je lutte contre la stigmatisation et l'auto-stigmatisation.
Et votre entourage au quartier, les amis, comment ont-ils réagi lorsqu'ils ont appris que vous êtes atteint du sida?
Ah oui, mais bon, pour la première fois, c'est sérieux. Ils ont pris ça très mal. Ils n'ont pas compris. Parce qu'à cette époque-là, j'ai fait ce qu'on appelle dans l'église catholique Moyangili.
Mm-hmm.
Vous voyez ce que ça fait?
Oui.
J'avais un groupe de personnes que j'ai encadré et tout ça.
Mm-hmm.
Et puis j'ai fait aussi délégué commercial d'une grande société qu'on appelait Makin.
Mm-hmm.
Vous voyez ce que ça faisait? Eh ben, les gens
tous
ne m'ont pas
les amis, les gens sont rejetés.
Non,
ils ne voulaient plus s'approcher de
moi. Oui, de part, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, mais grâce à mon curé qui était à Kingabois, il m'a réconforté, il m'a dit, mais non, écoute, ce n'est pas une maladie, ce n'est une maladie qui est la punition de Dieu, mais c'est une maladie qui arrive comme toute autre maladie.
Oui.
Tiens bon, et puis ça va marcher. Et voilà qu'aujourd'hui ça marche aussi.
Voilà, et comment peut-on lutter contre la stigmatisation? Que l'entourage ne puisse pas marcher, que la personne qui souffre ne se sente pas marginalisée, que faut-il faire?
Et merci, monsieur le journaliste, c'est une très bonne question. J'ai toujours dit, même que ce soit au PNMLS, que ce soit l'ICOPLUS, ce qui signifie c'est l'union de personnes vivant avec le VIH-Sida, qui est notre fêtière.
Oui.
J'ai toujours dit que si pour lutter contre la stigmatisation, il faut une bonne prise en charge. Et cette bonne prise en charge, c'est surtout trouver à révaloriser, à donner l'estime de soi à quelqu'un. Et comment est-ce qu'on va donner cette estime de soi? C'est quand quelqu'un travaille, quand quelqu'un a du boulot, il est en train de travailler, il est en train de produire pour sa famille, pour son entourage. Je ne crois pas que ce type-là soit stigmatisé. Vous voyez, c'est ça surtout. Il ne faut pas lutter pour les mots, tout ça, et dire, écoutez, la stigmatisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit seulement de révaloriser la personne, tout en lui donnant son estime de soi, tout en lui faisant comprendre qu'il peut travailler, il peut faire, c'est une personne comme toute autre personne, et sensibiliser aussi l'entourage. L'entourage doit savoir que s'ils sont en train de stigmatiser, c'est justement qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train d'ouvrir le couloir pour que les VIH-SIDA puissent avancer. Et pourquoi ça? Parce que si ils sont en train de stigmatiser, les gens n'iront plus au dépistage. Les gens n'iront plus même aller avoir accès au traitement. Ils disent, ben, si moi je vais aller prendre le médicament, on va dire que je suis personne vivant avec les VIH-SIDA, oui. Je serai moqué.
Elles préfèrent vivre dans la clandestinité.
Et oui. Pour dispatcher la maladie, et c'est difficile même de faire la prévention. Parce que vous allez parler, mais il faut que la prévention soit pratique par une bonne prise en charge des personnes vivant avec les VIH-SIDA.
Donc, il y a deux niveaux de stigmatisation.
Oui.
Donc, l'entourage et la personne elle-même.
La personne elle-même, monsieur le journaliste, surtout la personne elle-même, ce que nous appelons l'auto-stigmatisation.
Oui.
Ça, c'est se dire que la personne a perdu l'estime de soi. On l'a stigmatisé, et puis maintenant, elle pense que pour elle, c'est fini, la vie est terminée. Sur la mort, et tout ça, cette auto-stigmatisation, c'est vous, les journalistes, hein? Qui ont contribué à cela, la façon dont vous avez présenté les VIH-SIDA au départ.
Ah, au capitaine, vous
n'avez pas. Non, j'ai dit bien les journalistes, au départ, ce n'est pas maintenant. Maintenant, tous nous sommes dans la lutte.
Oui.
Au départ, la façon dont on a présenté la vie, les VIH-SIDA, en disant que SIDA c'est la mort, SIDA c'est ci, SIDA c'est cela, tout ça, ainsi de suite. Mm-hmm. Après, les gens ont compris que vivre avec une personne avec le VIH-SIDA c'est la mort. Vous voyez. Et bien maintenant...
Ben, c'était un problème d'information.
Oui,
par exemple, à l'époque, c'était les gens disaient, quand une personne est atteinte du sida, il ne faut même pas manger avec elle. Il
ne
faut même pas,
pas
prendre de l'eau dans un même gobelet avec la personne ou utiliser le même verre. Il faut l'éviter à tout prix. Il ne faut même pas s'asseoir à côté d'elle ou lui parler, sinon vous risquez... C'était un problème d'information. Aujourd'hui, on suppose que l'information circule.
Circule, mais c'est ça. Au départ, si cette information n'était pas comme ça, il n'y aurait pas la stigmatisation. Vous voyez.
Voilà. Donc, la meilleure façon de lutter contre la stigmatisation, il faut révaloriser la personne.
La personne, en lui donnant du travail. Donc, créer les activités. Ce n'est pas ce comme on dit les agères individuelles, non. Créer les activités de productivité qui donnent du travail aux personnes vivant avec les VIH-SIDA. Et une fois ces gens-là travaillent, ils sont capables de prendre en charge les enfants, de prendre en charge leur loyer, et c'est fini. Pourquoi les gens sont quelquefois stigmatisés? C'est parce qu'ils sont dépendantes. C'est ça quand quelqu'un dépend de toi,
des
autres, tout ça. Ben, ces gens-là trouvent que toi, tu ne fais rien. Tu deviens une bouche inutile. Et c'est fini. On commence à te trouver inutile. On commence à te chosifier. Et puis, ça envoie même jusqu'à la mort.
Vous avez des cas, des gens qui sont morts comme ça?
Oui, mais...
à cause de la stigmatisation?
Vraiment, même pour le moment, je peux vous dire qu'à Lizibay, il y a deux jours, on est venu jeter une PVV chez moi à la maison. Et je l'ai pris jusqu'à MSF Belgique. Et elle s'appelle Aminata.
Qui l'a jeté?
Oui, bon, cela veut dire que toute la famille l'a rejeté. Elle-même est venue, papa, on ne veut pas de moi, tout ça, je vais mourir. Et heureusement que nous l'avons amenée au CTA. On arrive au CTA.
C'est où?
C'était, disons que CHK, c'est en face de la RTNC.
C'est un centre médical?
Oui, c'est un centre de MSF Belgique qui prend en charge les personnes vivant avec le VIH-SIDA.
Donc ses propres parents sont venus la déposer chez vous à la maison?
Non, c'est-à-dire qu'ils l'ont chassée. Comme elle sait que bon, il y a une organisation qui s'occupe des personnes vivant avec le VIH-SIDA, elle est venue vers nous. Et nous, on ne va pas la rejeter. Nous l'avons pris, nous l'avons amenée à l'hôpital, on l'a soignée et maintenant elle est à l'ISIPA. C'est nous qui nous sommes en train de nous occuper d'elle. On lui donne la manche.
Vous payez ses études
Bon, écoutez, pour les études, oui, il y a certains dont nous payons leurs études. Il y a des enfants à qui nous payons leurs études.
Et les parents les ont abandonnés juste
Ils disent que bon, écoute, c'est pas notre problème, cet enfant ici est parti. Parce que pour le parent, c'est la sexualité. Il a mené une sexualité désordonnée et c'est pour cela qu'elle a attrapé le VIH-SIDA. Et nous n'en voulons pas d'elle. Et c'est ça le problème. Parce que le parent ne savent pas que peut-être il y a aussi d'autres, disons que d'autres voies. Hein?
Par les exemple, objets tranchants
et tout ça, piquant, toutes ces histoires-là.
Oui.
Et tout ça, quelquefois aussi, on l'a transfusé. La transfusion sanguine d'une personne qui était atteinte. Vous voyez. Et puis, les parents ignorent cela. Et directement, on rejette la foi. On la rejette. Non, nous, dans notre religion, on n'accepte pas ça. Les pasteurs aussi contribuent aussi à ça.
À la stigmatisation.
La stigmatisation aussi.
Bien. Vous avez des questions, des réactions, composez les 081-890-6394 ou écrivez-nous à service@radiocapi.net. Au Capi.
réponses à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Voilà, Monsieur Jean-Luc, là, vous êtes écouté à travers le pays et même en dehors de nos frontières. Et les auditeurs appellent pour avoir des précisions par rapport à ce que vous dites. Nous avons déjà un auditeur en ligne, il s'appelle Gondélé, depuis ici, dans la province orientale. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour, l'invité. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Oui, quelle est votre question?
Avant de manifester mon intervention, je voudrais abonner dans le même sens que le deuxième aspect de la stigmatisation. La stigmatisation d'abord individuelle de l'individu lui-même et la stigmatisation par rapport à l'entourage au milieu.
Oui.
Bon, quel serait l'apport de notre invité en tant que père éducateur, par exemple, pour ce qui est de la stigmatisation individuelle? Donc, l'apport en ce sens que le père éducateur doit continuer son message d'évangélisation vis-à-vis de l'individu lui-même. Bon, maintenant, comme le pouvoir public nous a conféré une loi par laquelle la personne qui se sentirait stigmatisée peut même porter plainte et c'est une personne en justice, quel est son apport vis-à-vis de ce deuxième aspect? Je vous remercie.
Jean-Luc est là.
Bon, merci beaucoup, monsieur. Ici à Kinshasa, pour le père éducateur, où nous avons ce que nous appelons le groupe de support, ou les groupes de soutien au PVV, ce que nous appelons les organisations assises communautaires, là où les PVV se réunissent chaque samedi pour parler de leurs problèmes, pour parler de la stigmatisation et pour voir comment ils peuvent se défendre contre la stigmatisation. Et puis, du point de vue de la loi du... disons 011 du 14 juillet 2008. Bon, pour cette loi-là, c'est vrai, monsieur, la loi existe. Mais, vous voyez, dans les contextes divers, ça devient compliqué.
Donc, une personne stigmatisée peut porter plainte.
Peut porter plainte, la loi est là. Mais maintenant, nous avons un problème devant nous. La personne vit dans le quartier. On l'a stigmatisée. Eh ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller accuser. Et peut-être la personne qu'il doit accuser, c'est son père,
c'est, ça.
C'est sa mère,
c'est son frère,
c'est un type du quartier qui est aussi influent, tout ça. Et ben, maintenant, quand on vient avec les problèmes, nous privilégions tout le temps ce que nous appelons une solution de conciliation. Pourquoi? Parce que nous savons qu'ici, une fois il accuse, bon, eux qu'on met le type en prison. Et maintenant, la réaction du quartier, vous voyez maintenant, les gens qui sont dans le quartier.
Ça va encore poser de problèmes.
Ça va encore poser un grand problème.
Oui.
Alors c'est pour cela, nous allons tout d'abord à la conciliation. Mais vraiment, si la personne persiste, c'est à ces moments-là qu'on peut aller au tribunal. Mais à mon niveau, je suis ici à Kinshasa et en tant que coordonnateur bon, d'une grande organisation, nous n'avons pas encore un cas. Il y a même des journalistes qui viennent me demander s'il y a déjà un cas qui est arrivé à un tribunal qu'on a statué. Non, mais seulement jusqu'à présent, nous donnons des conseils, nous allons à la conciliation, nous allons voir le
bien.
Parent.
Alors Jean-Luc, vous avez dit, pour aider une personne stigmatisée, vous organisez des réunions chaque samedi,
chaque samedi,
où chaque personne parle de son expérience et ça les aide quand même à sortir de cette situation. Donc vous conseillez aussi aux autres à travers le pays d'organiser également des telles réunions, de telles rencontres régulièrement pour aider les personnes stigmatisées.
Oui, l'IRENOAC est national. Nous avons dit, pour le moment, nous sommes ici à Kinshasa. Bientôt, nous serons dans le Bas-Congo et l'Équateur.
Voilà, on y revient tout à l'heure. Le temps de recueillir la question de Giscard Koussema de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je dis Daniel.
On vous écoute.
Oui, je voudrais intervenir par rapport à la stigmatisation, tout en saluant les courages de votre invité. Je voudrais ici ajouter qu'au-delà des journalistes, aujourd'hui, la stigmatisation est exacerbée par le contexte international. Qu'est-ce que notre invité peut aujourd'hui dire par rapport à cette stigmatisation institutionnalisée dans certains pays? Donc, pour obtenir les visas d'un pays, de tel ou tel autre pays, on vous impose un test VIH. Pour être embauché dans certains organismes internationaux, on impose également. Et tout cela est une forme aussi de stigmatisation. Quelle est la réaction? Est-ce qu'il y a des contacts qui sont pris à ce niveau international pour donner un traitement égal à toute personne?
Merci, Justin. Jean-Luc est là.
Bon, et merci beaucoup, messieurs. Ici, à Kinshasa, nous avons un consortium de plaidoyer qui réunit les ONG internationales et les ONG nationales qui sont ici pour lutter contre cette forme de stigmatisation. En principe, monsieur, la loi condamne cela. Personne n'a le droit d'exiger à quelqu'un, même avant le mariage, dites au moins par votre consentement personnel, vous pouvez dire, bon, écoutez, pour nous marier, nous voulons faire le test d'HIV-SIDA. Ni le pasteur, ni un chancelier ne peut pas dire que non, quelqu'un pour voyager, il faut nécessairement faire les tests d'HIV-SIDA. Parce que moi, j'ai des amis qui voyagent et tout ça. Tout de suite, là, il y a mon suivi et évaluation. Il va partir en Autriche. Hein, il a son visa, il a tout ça. Si vraiment il y a cette pratique-là, venez avec ça chez nous. Oui. C'est nous. Mm-hmm. Nous allons voir ces gens-là pour leur dire que ce n'est pas comme ça qu'ils doivent se conduire. Merci.
Voilà, et on va vous saisir quelles sont vos coordonnées.
Mes coordonnées, c'est Monsieur Jean-Luc qui est là, Renoir GS, mon numéro de téléphone, c'est le 081-06-70-505. Vous nous téléphonez. Ou vous venez sur en face de type K. Bon, notre bureau est juste vraiment en face de type K, là où Rochero jouait. Si vous arrivez là-bas, vous verrez, c'est écrit là-bas, Renoir GS, vous entrez, vous demandez, nous avons des services qui peuvent vous aider. Vous pouvez partir même à l'ICOP Plus, au Campinzi. Vous arrivez là-bas, vous demandez l'ICOP Plus, on va vous aider, on va vous dire que ce n'est pas possible. Ces pratiques sont condamnables. Personne ne peut pas dire à quelqu'un, non, écoutez, il faut les tests de SIDA pour ceci, pour cela. Non, ça ne se fera jamais.
Ça ne se fera jamais. Nous parlons aujourd'hui de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH-SIDA. Vous avez parlé des deux formes, vous avez distingué deux formes. D'abord, la stigmatisation de l'entourage et l'autostigmatisation, la personne elle-même qui s'isole, qui se referme. Et alors, pour sortir de cela, vous avez dit la seule méthode, c'est regrouper ces personnes, l'échange des témoignages, c'est la seule méthode pour les aider à sortir de l'isolement.
Oui, pour le moment, vraiment, c'est la seule solution. Il faut que les gens soient ensemble. Vous voyez que c'est, comme disaient les Belges, l'union fait la force. S'ils sont ensemble, ils sauront lutter contre la stigmatisation, contre l'auto-stigmatisation. Parce qu'ils vont échanger. Ils vont dire, bon, écoutez, moi, voici ce que j'ai connu dans ma famille. Ou parce que dans ma famille, voici ce qu'il y a. Nous descendons là-bas, voir la famille, parler avec la famille.
Bon, prenons le cas de cette jeune fille rejetée par ses parents,
ouais.
Parce qu'elle est atteinte du sida. Ouais. Quelles sont les démarches déjà menées à votre niveau pour arriver à régler ce problème?
Bon, nous avons tout d'abord essayé, il a fallu qu'on la soigne. Elle est à l'hôpital, elle est en train d'être soignée, mais nous avons aussi notre chargé des soins palliatifs et des chargés des visites à domicile qui est parti voir le parent.
Mmh.
Il est parti voir le parent, je n'ai pas encore de rapport. Je lui ai dit de faire tout, voir le parent, parce que cette fille-là a aussi un enfant. Et puis il y a d'autres problèmes.
Et l'enfant aussi est malade?
Non, l'enfant n'est plus malade. L'enfant est indemne parce qu'il y a ce qu'on appelle le PTM. C'est-à-dire qu'à la naissance de cet enfant, on a protégé l'enfant pour qu'il ne soit pas infecté. Donc l'enfant est vraiment bien.
Voilà.
Mais sauf. Alors, pour la fille, qu'est-ce que nous avons fait? Maintenant, nous sommes en train de mener des démarches auprès des parents pour la réinsérer. Parce que nous n'allons pas continuer à la garder avec nous. Le problème est que les parents comprennent que c'est leur fille. Ah, c'est un problème qui est arrivé. De toutes les façons, elle pouvait être tuberculeuse, elle pouvait être diabétique, elle pouvait être tout ce qu'elle pouvait être.
Et le fait de la stigmatiser comme ça, ça peut même entraîner sa mort, la pousser rapidement.
Mais oui, sérieusement, ouais. Mais parce que quand elle est venue, elle n'avait même pas, le sang jusqu'à 26, on l'a transfusé deux fois au CHK, et puis après on l'a envoyé à l'ISIBA. À l'ISIBA, nous avons mis avec elle notre infirmière qui est avec elle, qui reste avec elle.
Elle a quel âge on peut
pas... Elle a 25 ans.
25 ans.
Elle a 25 ans.
Des questions, des réactions, composez les 081-890-63-94.
La course relais de la formation sportive, c'est sur Radio Okapi. Nanambala, au démarrage, passe le relais à Dieudonné Kabeyangalula qui fonce vers le micro et le passe à Kanis Mukongo Chambouille. Il fonce et se trouve en tête à la sortie du virage où Christian Moulumba l'attend. Les 100 derniers mètres sont parcourus sans encombre et... Victoire! Les 400 mètres relais de la formation sportive, c'est tous les dimanches à partir de 15h, heure de Kinshasa.
Nous avons en ligne Berthollet Mukendi de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi je voulais parler de cette stigmatisation-là. Vous ne voyez pas que c'est une réaction. Une réaction à un certain comportement de certains malades de VIH. En tant qu'éducateur à la vie, j'ai demandé, j'ai fait un petit jeu de rôle là avec des enfants.
Oui.
Il est par exemple, bon, écoute, maintenant, Béné, vous donnez votre sang, on va examiner. Et on donne le résultat, vous êtes malade. Et l'autre, il n'est pas malade, ainsi de suite. J'ai dit, quelle est votre réaction maintenant? Donc, comme moi, je suis malade, je ne vais pas mourir seul. Donc, c'est vrai comme ça que tous ceux qui sont malades, quand ils s'en vont pour le dépistage, ils se rendent compte qu'ils sont malades, ils se disent, oh, Naoko Fangai est mon côté. Et c'est ainsi que les autres aussi, ils se disent, ah, comme ils ne veulent pas mourir seuls, quand on découvre que vous êtes malade, on se dit, non, non, autant le stigmatiser, autant dire, écoutez, il ne faut pas le toucher, il ne faut pas l'approcher, parce qu'il risque de propager la maladie.
Oui.
Comment lutter contre cette réaction, cette façon de réagir-là? C'est ça le problème, parce que si ils continuent à agir comme ça, dès qu'ils se rendent compte qu'ils sont malades, les autres aussi réagiront de cette même façon-là.
Oui.
Alors, comment... notre invité, dont j'admire le courage, peut nous dire nous aussi comment éviter cette façon de réagir.
Merci Berthollet, Jean-Luc est là.
Merci beaucoup monsieur. Je sais que ces problèmes dataient du moment où il n'y avait pas de médicaments, parce qu'il n'y avait pas des ARV. Je me souviens encore que le Jean mettait des listes à côté pour dire je ne vais pas mourir seul, tout ça. Et c'est pour cela, c'est ce qui a amené que nous puissions former nos groupes-là, les OAC, pour lutter contre cette forme de réaction-là, pour ne pas dire que je ne vais pas mourir seul. Parce qu'il y a des ARV. Vous pouvez prolonger votre vie. Et puis, cette réaction négative, nous, dans nos groupes, nous combattons cela. Mmh. Et puis, même dans nos quartiers, nous avons, si nous trouvons quelqu'un qui a ces comportements-là, nous l'approchons, nous lui disons que ce n'est pas, même s'il n'est pas de notre groupe, nous lui disons qu'il ne faut pas se comporter de cette façon-là. Et puis, vous aussi, de votre côté, vous devez faire un effort. Mais si vous le rejetez comme ça, ce qui signifie que vous êtes en train de lui permettre de faire, de continuer dans ce sens-là. Mais si vous l'approchez, aujourd'hui il y a la loi, vous savez que ce type est porteur d'IVA-SIDA, si vous avez vraiment de preuves, bon, s'il a un comportement qui ne cadre pas avec la réalité de la vie, il est en train de dispatcher la maladie. Nécessairement, il faut porter plainte. Il faut dire que non, il faut lui dire non, il ne faut pas continuer comme ça.
Oui.
Voici ta, et ce que tu fais là, voici des conséquences, tout ça. Mais si vous le rejetez, c'est ce qui signifie que ce n'est pas bon. Mais c'est plutôt approchez-le.
Mm.
Donnez-lui des conseils.
Oui.
Dites-lui que vous devez vivre, les autres ont droit à la vie. Et puis, toi aussi, tu as droit à la vie. Mais il ne faut pas dire que tu vas mourir seul. Parce que ce ne sont pas ceux-là qui ont dit que tu attrapes la maladie.
Voilà.
Mais c'est plutôt pour le protéger.
Si on a un cas comme ça, il peut aller porter plainte contre la personne. Non?
Mais oui, si tu as un cas comme ça, c'est sérieux. Si vraiment tu as de preuves, parce que on dit que la sérologie est individuelle, vous voyez, et puis elle est confidentielle. Donc personne n'a les droits. Mais
connaître.
Si vraiment tu as de preuves que vraiment il y a ça, 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 ou par exemple tu as ta cousine et que tu connais que ce monsieur-là est séropositif et il est en train de courir avec ta cousine, tout ça. Nécessairement, tu dois t'interposer.
Voilà.
Tu dois dire à ta cousine de porter plainte, de dire mais est-ce que monsieur et tout ça, où allons et ainsi de suite, on va le poursuivre.
D'accord, on va recueillir la question d'Ignace Andala de Kolozi et Mazé Kisambicha de Kananga. Ignace, bonjour.
Bonjour, je voudrais juste savoir quelle est la part ou l'effort du malade lui-même dans cette démarche contre cette stigmatisation.
Voilà, merci beaucoup. Mazé, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Votre question ?
Oui, j'aimerais savoir, aux questions de stigmatisation, poser une question à notre invité. Si on vivait avec une personne qui a le VIH-SIDA ensemble dans notre famille, par exemple, est-ce qu'il y aura encore d'autres moyens de les enseigner, soit de les déplacer là où les gens qui vivent sans le VIH-SIDA, et ensemble, si on arrive de faire le déplacer là où les gens vivent, ça ne sera pas bien, puisque notre invité dit intéresse beaucoup à ce qu'est les gens qui vivent avec le VIH-SIDA. On peut tous au même moment vivre avec eux ensemble. Mais moi, j'aimerais poser une question de savoir. Si on arrive plutôt de déplacer cette personne là où les gens vivent ensemble, ça ne sera pas un moyen de protection en faveur de ça?
Voilà, monsieur Jean Luc est là.
Bon, pour la première question.
La Ignace d'Écologie dit, oui. Quelle est la part du malade lui-même dans la lutte contre la stigmatisation?
Bon, le malade lui-même, tout d'abord, c'est lui qui est là, c'est lui qui doit lutter contre la stigmatisation. Même la prévention, c'est les malades, c'est aujourd'hui la personne vivant avec le VIH-SIDA qui doit dire aux personnes saines, ceux qui ne sont pas infectés, pour leur dire, écoutez, voici ce que vous devez faire. Moi, je me suis conduit de cette façon, voici ce que je suis devenu. Il faut utiliser les préservatifs, il faut faire ceci, il faut adopter tel comportement, pour ne pas tomber dans mon camp. Mmh. Donc, le malade lui-même a des responsabilités de premier, de premier ordre.
Même si les gens le rejettent, les gens ne veulent plus de lui, il doit continuer à les approcher.
Il doit nécessairement les approcher. Il doit leur dire que voici ce que je suis. Si les gens comprennent ce qu'il est, et puis pourquoi il est, et les gens savent que s'il le fait, il veut les protéger, ils vont l'accepter. Et c'est, prenons mon cas.
Vous êtes accepté par votre famille, par
mais
vos
oui,
enfants.
Pourquoi? Parce que je les protège. Même, j'ai dit pour partout, toute la société, même tout ça, que ce soit Kananga, tout le monde me connaît, que ce soit Koué, c'est pas moi, Kolwezi, Kissa, Katanga, tout ça. Hein? Nous avons des gens qui sont au Katanga, dans l'ICO, plus tout ça, où nous disons, écoutez, il faut lutter contre la stigmatisation et la prévention aussi.
D'accord, alors la question de Mazé, faut-il déplacer le malade?
Mais ça c'est, tout d'abord, si nous voulons dire, il dit qu'il faut déplacer les malades. Donc, il y a les sidatiques. Il y a les personnes vivant avec le VIH-SIDA, donc qui ont que le VIH. Mais vous ne saurez pas qu'il a le VIH. Vous allez déplacer que ceux qui ont le SIDA.
Et les autres qui...
Et les, c'est là, peut-être
les,
même le monsieur...
Les féraux ignorants.
Oui, le monsieur lui-même qui pose la question, il ne sait pas, je ne sais pas s'il a déjà fait les dépistages volontaires. Il ne sait pas si lui-même porte le VIH-SIDA. Et si lui, demain, on l'écarte, on va le mettre dans la
quarantaine.
On lui dit non, écoute, parce que tu as le VIH-SIDA. Et puis, pour
ça, c'est précipiter la mort
pour
la personne, peut-être.
Nous pouvons dire, nous avons peut-être 35 000, 40 000 personnes vivant avec le VIH-SIDA. Et le monsieur, où est-ce que nous allons le mettre?
Donc, c'est pas important de déplacer
la personne. Ce n'est pas important, mais c'est plutôt approcher-les. Donnez-les votre amour. Oui. Vous allez voir que de toutes les façons, vous allez résoudre le problème parce qu'ils vont apprendre à vous protéger et vous-même aussi, vous allez vous protéger.
Bien, Jean Louquet, coordonnateur du Réseau National des Organisations d'Assises Communautaires des Personnes Vivant avec le VIH-SIDA, nous vous disons merci. Nous rappelons votre numéro de contact, le 081-06-70-505. 081-06-70-505. Merci et à la prochaine.
Bon, merci monsieur. Je vous remercie aussi.
Au capé. Thank you.